Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Nous étions arrêtés la semaine dernière sur un récapitulatif du plan de l'adversaire et je voudrais vous le rappeler avant de continuer pour bien que cela s'ancre dans nos cœurs et de ne pas être étonné quand nous voyons ces choses être en train de se réaliser. Donc le plan de l'adversaire est le suivant. Il travaille à détruire l'œuvre de Dieu, et cela c'est la contrepartie de ce que Jésus veut faire. Jésus veut bâtir l'Église, lui veut la détruire. Et quand il ne peut y parvenir, il essaie de corrompre l'œuvre de Dieu, il essaie de la paralyser, il essaie de la rendre stérile. En même temps, il essaie de la rendre religieuse. Parallèlement à cette autodestruction de l'œuvre de Dieu, il contredit, il déforme, il entrave l'annonce de la parole, il en nie l'inspiration, il en nie la véracité, il en nie l'historicité, il aveugle l'intelligence de ceux et celles qui sont appelés à la transmettre et à la recevoir, il les rend sourds, insensibles, attiédis, hypocrites et moqueurs. Il ment, parce qu'il est le père du mensonge, et il incite l'homme à désobéir à Dieu. Nous nous souvenons dans la Genèse, Dieu a-t-il vraiment dit ces choses, etc. Donc, il est le grand incitateur de la désobéissance. Oh, c'est pas grave si je fais ça, c'est pas grave, voilà, je vais le faire, c'est pas grave, Dieu m'en tiendra par rigueur, n'est-ce pas? Il incite l'homme à désobéir à Dieu, il s'en prend à ceux qui lui résistent. Il les tente, il les séduit, ou alors il les frappe d'épreuves diverses. En tout cas, il cherche à les ruiner. Outre cela, il suscite les controverses et les haines. Il mène une guerre impitoyable contre le Seigneur et ses disciples. Il leur tend des pièges, il les harcèle, il les opprime, il les jette en prison, il les tente et il les menace. Aurait-il de l'insuccès, il se fait imitateur. Il use de sa puissance limitée pour opérer des miracles trompeurs. Il inspire de faux prophètes, de faux docteurs. Au besoin, il se déguise en ange de lumière. En suscitant et en inspirant de faux prophètes et de faux docteurs, il essaie d'introduire dans l'Église du Seigneur un peu de levain pour faire lever la pâte. En vérité, il est lâche, dépouillé d'imagination et d'esprit d'invention. Il ne dispose d'aucun moyen, je signale à nouveau, il ne dispose d'aucun moyen, sinon ce que l'homme consent à lui offrir ou à lui céder. Donc, ça rejoint quelque part l'Écriture qui nous dit « Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre le péché ». Il y a une résistance, n'est-ce pas, que nous devons opposer à l'ennemi quand la tentation arrive, la séduction arrive. Paul va résumer ce plan. Dans 2 Corinthiens 2:11, il va dire ceci, 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 11, « Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Le mot « dessein » ici, c'est le mot grec « noema » qui, outre sa signification de « dessein », veut dire aussi ses intentions et ses projets. Donc il a des intentions, il a des projets, il a des desseins à notre égard et nous ne devons pas ignorer ses desseins à notre égard. Comment discerner ses desseins à notre égard? Eh bien, lorsque des situations concrètes se posent devant nous, de disputes, de bagarres, de mots, de mots verbales, quand il y a des échanges de mots difficiles entre personnes, quand il y a des intentions malsaines, nous devons être suffisamment remplis du Saint-Esprit pour discerner ce qui est en train de se passer. Et dans ce qui se passe, dans ce fratras de choses qui sont en train de se lever, nous ne devons pas ignorer que là, nous ne combattons pas la chair et le sang. Éphésiens 6 et verset 11 va nous dire cette chose. « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Et là, le mot « artifice » dans l'Épître aux Éphésiens, c'est le mot « méthodeia ». Méthodeia, dont nous avons tiré le mot méthode en français, qui veut dire en grec guet-apens, fraude par voie détournée, ruse, tromperie, falsification, artifice. Pour que vous puissiez tenir ferme contre les guet-apens du diable, pour que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable, que vous puissiez tenir ferme contre les tromperies du diable, que vous puissiez tenir ferme contre les falsifications du diable et que vous puissiez tenir ferme contre les fraudes par voie détournée du diable. Voilà ce à quoi Paul nous invite à résister. Depuis tout à l'heure, quand j'ai entendu vos prières, beaucoup ont parlé de ne pas être séduits, de ne pas être trompés dans vos prières. Alors, quel est le moyen par excellence que le diable use pour tromper les hommes, les femmes? Le moyen par excellence par lequel il agit, c'est la séduction. La séduction. Frères et sœurs, la séduction n'est pas quelque chose que le chrétien doit ignorer, parce que ce travail de séduction, Satan l'a entamé dans la Genèse, et nous voyons cette séduction jusque l'Apocalypse. Alors nous allons lire deux textes, Genèse chapitre 3 et verset 13. Cette séduction va commencer dans le jardin d'Éden, où il est dit ceci: l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc nous voyons que la séduction déjà a commencé avec le premier couple, avec Adam et Ève. Et tout le long de l'histoire de biblique, nous voyons les divers moyens employés par Satan pour séduire et faire tomber ceux qui ont des responsabilités, ceux qui marchent avec Dieu. Par exemple, je me souviens très bien d'un cas précis dans l'Écriture, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias qui a été un grand roi, qui a suscité un des plus grands réveils qui a eu lieu en Israël. Ézéchias a rétabli l'ordre dans le temple de Dieu. Lui qui était roi de Juda, il a appelé tout Israël à venir faire la Pâque à Jérusalem. Il a envoyé des émissaires dans toutes les tribus. Il a fait en sorte que le peuple d'Israël revienne à son Dieu. Cette chose a réussi plus ou moins bien. Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il pense, de ce qu'il espérait. Et voilà que Ézéchias va faire une grande faute. Une fois qu'il a joui de tous ses biens, il a fait venir quelqu'un. Il a fait venir le roi de Babylone pour lui montrer tous les trésors que l'Éternel lui avait donnés. Encore Babylone. Encore Babel. Encore le principe spirituel mauvais. Depuis la Genèse avec la tour de Babel jusqu'à la fin de l'Apocalypse, en passant par tous les prophètes, vous verrez en filigrane Babylone. Babylone. Et à un moment même donné dans les Écritures, nous allons voir que le système babylonien, il est stéréotypé avec Satan. On va voir Isaïe chapitre 14 à partir du verset 9. C'est quelque chose qui me revient. Isaïe 14 verset 9. D'abord, dans le début du chapitre 14, il est parlé de Babylone et du roi de Babylone. Et au fur et à mesure, dans ce chapitre, le roi de Babylone va être identifié à Lucifer, à Satan. Regardez bien ce qu'il est dit. À partir du verset 9. Le Sheol d'en bas s'émeut pour toi, te rencontrant à ta venue, réveillant pour toi les trépassés. Dixit ici, Rapha, les trépassés. D'où le mot Raphaïm, les Réphaïm, les géants. Il y a eu quelque chose de singulier. Parce que le mot Rapha, qui veut dire ici trépassé, est assimilé aux fantômes de mort, aux ombres, aux revenants et aux esprits. Et les Réphaïm, les fameux Réphaïm, les géants, les grands géants que Israël a eu à combattre, ne sont ni plus ni moins que des puissances spirituelles mauvaises, incarnées dans des géants. Regardez ce qu'il est dit. Réveillant pour toi les trépassés, tous les boucs de la terre, faisant lever de leur trône tous les rois des nations. Donc ici même dans le Sheol, Satan, il a une autorité sur tous les rois de la terre. Mais c'est assez extraordinaire. Regardez ce qu'il est dit. Réveillant pour toi les trépassés, tous les boucs de la terre, faisant lever de leur trône, tous les rois des nations. Tous, ils prendront la parole et te diront, toi aussi tu as été rendu faible comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ton orgueil est descendu dans le Sheol, le son de tes luttes, les vers sont étendus sous toi et les larves sont ta couverture. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore? Tu as été abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les... Vous vous rappelez quand je vous disais que la hiérarchie, principauté, Satan, principauté, domination, dominateur des ténèbres, etc., etc., c'était des puissances, c'était une pyramide pour subjuguer les nations? Voilà ce que dit le prophète au verset 12. Toi qui es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations, toi tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asseyerai sur la montagne de l'assignation, au fond du nord, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Toutefois, on t'a fait descendre dans le Sheol, au fond de la fosse. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi et ils te considèrent comme disant, est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui a ébranlé les royaumes, qui a fait du monde un désert et qui a ruiné ses villes? Donc vous voyez cette assimilation, roi de Babylone, Satan, roi de Babylone, Satan. Toi qui subjuguais les nations. Nous aurons dans un autre contexte cette même façon d'opérer avec le prophète Ézéchiel, avec le prince de Tyr, qui va être assimilé, n'est-ce pas, aussi à Satan. Verset 13. « Tous les rois des nations, eux tous, reposent dans leur gloire, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté hors de ton sépulcre comme une branche qui fait horreur, recouvert de tuée, percé par l'épée, descendu jusqu'aux pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu ne seras pas réuni avec eux dans le sépulcre, car tu as réuni ton pays, tu as tué ton peuple, de la race des méchants, il ne sera jamais fait mention. » Ça passe tantôt du roi de Babylone, tantôt à l'ennemi. Tantôt du roi de Babylone, tantôt à l'ennemi. Il y a une assimilation entre Babylone et Satan. Et depuis la Genèse, depuis Babel, jusqu'à l'Apocalypse, frères et sœurs, regardons Apocalypse chapitre 18, et vous allez bien comprendre que Babylone est vraiment... C'est verset 18, il me semble, chapitre 18. Voilà. À partir du verset 1, après ces choses, je vis un autre ange, descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure de démons, et de repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable, car toutes les nations ont bu du vin, de la fureur, de sa fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. Un peu plus loin, il nous est dit que Babylone, au verset 13, fait des trafics avec les âmes des hommes. Nous avons ici, ça vous le retrouverez dans le verset 13, on va lire le verset 10, « Hélas, la grande ville Babylone, la ville forte, car en une seule heure son jugement est venu, et les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles et de fin lin, de pourpre et de soie et d'écarlate et de tout bois, de tuya, tout article d'ivoire, tout article en bois précieux, en airain, en fer, en marbre, de la cannelle. » Remarquez que ici, ce sont pratiquement tous les matériaux qui ont servi à construire le tabernacle. Hein? Remarquez bien. Et ensuite, on parle de la cannelle, de la monne, des parfums, de l'hume aromatique, de l'encens et du vin et de l'huile, et de la fine farine, du froment, du bétail, des brebis, des chevaux et des chariots et des esclaves et des âmes d'hommes. Le principe de la Babylone, c'est un principe qui va perdurer jusqu'à la fin et qui est le symbole sur la terre de l'organisation satanique. C'est un symbole spirituel puissant. Donc je disais que cette séduction, elle a commencé en Genèse 3, 13 et qu'elle continue jusqu'à l'Apocalypse 18, 23 où nous est dit ceci, « Et la lumière de la lampe ne luira plus en toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus oui en toi car tes marchands étaient les grands de la terre car par ta magie toutes les nations ont été égarées. » Alors en revenant à la parole de Dieu, dans cette séduction, comment faire la preuve qu'une doctrine vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Écoutez bien ça, c'est très important. Ce sont des clés. Quand vous écouterez un prédicateur ici, mettez en pratique ces clés-là. Comment faire la preuve qu'une doctrine vient de Dieu ou qu'elle ne vient pas de Dieu? Puisque toute pensée, toute croyance procède soit du Dieu de vérité, soit du Père du mensonge, nous ne pouvons déceler l'origine de toute doctrine, pensée ou croyance qu'en nous basant sur la révélation écrite qui est la parole de Dieu. Toute vérité doit être en harmonie parfaite avec la parole de Dieu. Toute vérité doit être en harmonie parfaite avec la parole de Dieu. Et nous reconnaîtrons l'erreur et les doctrines de démons à ceci. Premièrement, ces doctrines de démons, elles affaiblissent l'autorité des Écritures. Premièrement, elles affaiblissent l'autorité des Écritures. À ce sujet, Pierre va nous dire dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21, il va nous dire ceci. « Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Toute doctrine exposée qui affaiblit l'autorité des Écritures, vous pouvez dire qu'elles ne viennent pas de Dieu. Deuxièmement, cette doctrine tord, altère et détourne de son sens primitif l'enseignement des Écritures. Vous savez aussi cette chose que beaucoup de chrétiens font pour justifier leur façon de vivre leur foi, quand ils sortent un verset d'un contexte pour en faire un prétexte. Attention, l'Écriture s'interprète d'elle-même. Elle n'a pas besoin d'interprétation particulière et toute écriture doit être attestée par deux ou trois versets. Car tout doit se faire sur la déposition de un ou deux ou trois témoins. Troisièmement, la preuve qu'une doctrine est de Dieu ou pas de Dieu, c'est qu'elle ajoute à l'écriture la pensée de l'homme. Et c'est là où nous comprenons que quand nous lisons les écritures, nous commençons par fixer nos yeux sur cette parole. Et si nous demandons une compréhension de cette parole, vous entendrez dire à côté de vous, « Moi, je pense que c'est comme ça. » Non, 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 tu penses pas que c'est comme ça. Tu penses ce que pense la parole de Dieu. Parce que la pensée de l'homme ne peut pas interpréter la pensée de Dieu. C'est l'homme régénéré par l'Esprit de Dieu qui peut comprendre les choses de Dieu. Et non pas notre pensée humaine. Quatrièmement, elles mettent tout à fait les Écritures de côté. Les doctrines de démons, c'est ça. On va faire une autre doctrine. On va mettre les Écritures de côté et on va donner notre interprétation particulière. Le but poursuivi par Satan, c'est de se cacher, de fausser, de diminuer, ou même de faire rejeter entièrement ce que dit la Bible de l'œuvre de la croix à Golgotha, où il fut vaincu. Son but, c'est de cacher l'œuvre de Golgotha. Son but, c'est de fausser l'œuvre de Golgotha. Son but, c'est d'amenuiser, de diminuer cette œuvre magnifique du Seigneur. Ou même de faire rejeter entièrement ce que dit la Bible à propos de l'œuvre de la croix. Parce que là, il a été vaincu par le Christ. C'est là, à Golgotha, où le Christ du Seigneur reconquit la liberté pour les captifs, tous ceux que le séducteur garde en esclavage. C'est à Golgotha que le Seigneur nous délivre de cet esclavage-là. C'est pour ça que l'ennemi tend à amenuiser cette œuvre, à la cacher, à la fausser, à l'humaniser pour que les sentiments humains puissent dire « Mais quel est ce Dieu qui a permis que cet homme soit mis à la mort comme ça ? Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour dans ce Dieu-là. » Alors que c'est tout à fait le contraire. Donc pour éprouver les pensées et les croyances de certains mouvements religieux, nous examinerons donc si ces pensées et ces croyances sont en harmonie avec l'Écriture et ce qu'elles ont plus particulièrement par rapport à l'expiation et au péché. Et c'est là, frères et sœurs, que nous allons des arguments que nous devons avoir face à certaines sectes qui se disent chrétiennes et qui ne le sont pas parce que ce sont des doctrines de démons. Par exemple, la science chrétienne. Et il y a sur Montpellier des sectes chrétiennes qui se disent avoir le don de guérison comme la théosophie, comme la science chrétienne. Mais dans leur doctrine, ces sectes ignorent le péché, elles ignorent le sauveur et surtout elles ignorent l'expiation, c'est-à-dire elles ignorent totalement l'œuvre de la croix. La théosophie. Et pourtant, le mot a été bien choisi, puisque ce mot théosophie, il tient sa racine de théos, Dieu, et sophie, sophie à la sagesse, soi-disant la sagesse de Dieu. Cette secte, la théosophie, elle ignore le péché et elle ignore l'expiation. Les mahométans, les musulmans, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas d'expiation. Comment pourrions-nous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, tendre vers une unité des religions avec des gens qui rejettent et l'expiation et l'œuvre de la croix? Comment pourrions-nous faire des alliances avec les Bahaïs, avec les Zoroastres, avec les bouddhistes, etc., qui ignorent l'expiation, le péché et l'œuvre de la croix? Et le sauveur? Le bouddhisme, une religion morale où l'homme doit être son propre sauveur et nous voulons faire des ouvertures d'unité avec toutes ces religions, n'est-ce pas, avec les musulmans, avec toutes ces doctrines de démons, pour qu'il y ait une seule religion, c'est-à-dire qu'il y ait le faux prophète qui soit bientôt manifesté, les mormons qui ont un deuxième bouquin qui est plus puissant que la Bible, les russellistes, les idolâtres, ignorance du Sauveur et de son sacrifice au calvaire, mais une véritable connaissance des puissances du mal que les païens essaient de se concilier parce qu'ils savent la réalité de leur existence. Les idolâtres connaissent le monde spirituel mauvais. Car il nous dit que derrière chaque idole, il y a un esprit de démon qui anime l'idole. L'idole en elle, en soi, n'est rien. Le morceau de bois, le morceau de fer n'est rien. Mais c'est l'état d'esprit qui anime cette idole, qui est quelque chose de dangereux. Donc on pourrait, à travers cela, remettre en question plein de choses. Et je ne veux vexer personne, ni offusquer personne ici ce soir. Mais quand on prie pas les saints, n'est-ce pas ? Saint truc, saint machin, saint chose, saint Antoine de Padoue, sainte chose, sainte... on ne les prie pas. Nous avons adressé nos prières par Jésus-Christ à notre Père. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Et toutes les apparitions que nous voyons, où les gens se précipitent, mais quelle tromperie ! Oh, c'est l'égarement. Il vient avec toutes sortes de miracles et de prodiges. Paul le dit, n'est-ce pas, avant le retour du Seigneur, avec toutes sortes de miracles et de prodiges. Il vient pour tromper les gens. Et puis les faux Christ, le Christ de Montfavet, le Christ de ci, le Christ de là, le Christ de machin, le Christ de l'autre. Nous confessons ce soir qu'il y a un seul Christ, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père, et qui reviendra en gloire. La liste n'est pas exhaustive, n'est-ce pas ? Je ne vais pas passer en revue toutes les sectes et tous ces mouvements soi-disant chrétiens qui nient l'expiation, qui nient le péché, qui nient Golgotha, qui nient le Sauveur. Il y en a, ça foisonne dans le monde. Parce que il y a des doctrines de démons, n'est-ce pas, qui sont venues. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura des doctrines de démons. Et ça foisonne. Donc, comme disaient nos frères protestants au XVIe siècle, au XVIIe siècle, sola scriptura, seulement les Écritures, et les Écritures seules. Car nous partons sur le principe que toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle a reçu le souffle de Dieu, c'est-à-dire elles ont reçu l'inspiration de Dieu. Ce que je voudrais aussi vous faire comprendre ce soir, c'est que la séduction, Satan en est pour une bonne part, mais nous en sommes aussi nous pour une bonne part. Nous nous séduisons nous-mêmes. Mais à quel moment, à quel instant ? Ben nous allons les voir. Hein. Nous allons voir dans quel piège nous tombons nous-mêmes. Premièrement, la non-mise en pratique de la parole de Dieu, c'est une séduction. Vous répétez après moi ? La non-mise en pratique de la parole de Dieu, c'est une séduction. Dites-le fort, je veux entendre. Alors voilà, voyons voir qui a dit cette belle chose. Nous allons voir l'apôtre Jacques, au chapitre 1, au verset 22. Il va dire ceci, « Mais mettez la parole en pratique » et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. C'est-à-dire, si tu as entendu la parole de Dieu et que tu la mets pas en pratique, que tu continues à être borné dans ton esprit avec ce que tu as cru comprendre toi, tu te séduis toi-même. Une deuxième référence, Luc 6, verset 49. Mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Et le fleuve s'est jeté avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir bâti sa maison sur la terre sans fondement ? Ton fondement, mon fondement, il est sa fondation première est fondée sur la parole inaltérable du Dieu vivant. On ne peut rien construire sans autre base que la parole de Dieu. Deuxièmement, être sans péché ou s'imaginer de l'être, c'est une séduction. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais Jean va poursuivre au verset 9. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Jean s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse pas à des païens. Troisièmement, quand l'homme pense être quelque chose alors qu'il n'est rien. Galates 6:3. Galates chapitre 6 verset 3. Car si n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. Là, il n'est pas question de Satan, hein. Il est question de l'homme. Quatrièmement, quand l'homme se croit sage parce qu'il possède la sagesse du monde. 1 Corinthiens 3:18, voici la réponse de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 va dire ceci: que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. De la sagesse de Dieu, bien sûr. Cinquièmement, et celle-là, c'est la meilleure. Quand l'homme croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride. Jacques 1, verset 26. Ça va très loin, hein, ce que dit Jacques. Savez-vous que Jacques, c'était le frère du Seigneur? C'était celui qui avait la plus grande influence après la résurrection du Seigneur et l'élévation du Seigneur, ça a été Jacques à Jérusalem, qui était une colonne. Jacques dit, si quelqu'un pense être religieux, Jacques 1, 26, si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduise son cœur, le service religieux de cet homme-là est vain. Vain. Sixièmement, quand l'homme s'imagine pouvoir semer impunément sans récolter ce qu'il sème, quand l'homme s'imagine pouvoir semer impunément sans récolter ce qu'il sème, nous avons une réponse dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Galates 6, versets 7 et 8, où il est dit « Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ce septièmement aussi est particulier. Il est loin d'être humaniste, car l'humanisme rentre dans cette considération. Mais la parole de Dieu n'est pas l'humanisme. L'homme est séduit quand il se persuade que les injustes pourront hériter le royaume de Dieu. L'homme est séduit quand il se persuade que les injustes pourront hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Paul dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, et il y a des soucis à se faire pour ceux qui seront tombés dans ces choses-là, ni idolâtres, ceux qui ont le cœur partagé entre la religion et la liberté dans l'esprit, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui s'abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. » Frères et sœurs, que pourrions-nous dire de ce verset? Beaucoup se trompent même en croyant sur la toute grande miséricorde de Dieu. Qu'à la fin, Dieu, tout le monde rentrera dans le royaume de Dieu. Nous irons tous au paradis, dixit Paul Naref. Et en relation avec ce verset, le huitième point est d'importance. L'homme est séduit quand il s'imagine n'avoir rien à redouter du contact des pécheurs. Je viens à l'église, je vais au culte, je vais en réunion de prière, mais dès que je sors d'ici, mes contacts, mes amis, sont des gens du monde, des pécheurs, des gens que nous connaissons être, qui vivent dans le péché, ce sont nos amis. Mais moi, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Si tu prends 10 oranges, bonnes oranges, saines, et que tu en mettes une mauvaise au milieu, dans quelques temps, reviens voir, tu vas voir toutes les oranges qui seront pourries. Et si tu crois, toi, pouvoir résister au contact du pécheur, tu te trompes toi-même, tu te séduis toi-même. Et d'avoir pour amis des hommes et des femmes qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans la fornication, qui vivent dans l'homosexualité, etc., au sujet desquels il nous est dit qu'ils n'hériteront point du royaume de Dieu à condition qu'ils se convertissent et qu'ils se repentent de leur mauvaise voie. Mais ne crois pas que si tu as des contacts réguliers avec ces personnes, que ça n'aura pas d'impact sur ta vie. Satan, il se cache, il se dissimule. Tôt ou tard, il te touchera. 1 Corinthiens 15, versets 33 à 34. Et voilà ce que Paul va dire, mes amis. 1 Corinthiens 15, versets 33 et 34. Paul dit, ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies, vous écoutez? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu. c'est très important ce que Paul dit là. Nous ne pouvons pas ne pas savoir ce que Dieu dit à ces sujets-là. Et Dieu nous a parlé que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, que nous ne pouvons pas fréquenter ceux qui vivent dans l'adultère, qui se compromettent, que un peu de levain fait lever toute la pâte, frères et sœurs. Alors vous allez me dire, mais je vais vivre comme une nonne, comme une sœur, comme un prêtre, comme un moine. Non, non. Ton rôle, c'est d'annoncer l'évangile à ces personnes. Si elles le refusent, tu te retires. Tu te retires, tu continues à prier pour elles, pour voir si le Seigneur, usant de patience, s'il n'a pas quelque chose à faire encore avec ces personnes. Mais ne tiens pas le contact. Séduire, dans le vocabulaire biblique, veut dire plusieurs choses. Écoutez la séduction, ce que ça veut dire dans le texte original en grec. Planao. Planao en grec veut dire écarté du droit chemin et égaré. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu t'en rends pas compte, mais tôt ou tard, tu es écarté du chemin droit. Et l'ennemi va t'égarer. Oh, mais c'est pas grave. Tu peux venir avec nous ce soir en boîte, c'est pas grave. Oh, Dieu n'est pas contre eux. On va y aller. Dieu n'est pas contre la sexualité. Je peux voir un film porno. Dieu n'est pas contre ça. Que dit Paul? Car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu. Nous ne devons pas ignorer ce que Dieu dit à ce sujet-là. Il nous dit que les fornicateurs, il nous dit que les adultères, les efféminés, ceux qui s'abusent d'eux-mêmes avec des hommes, les homosexuels, les voleurs, les ivrognes, les ravisseurs, les outrageux n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ne soyez pas séduits, dit Paul. Ne croyez pas que s'il n'y a pas de repentance dans ces gens-là, ils rentreront dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'il leur dit. S'écarter du droit chemin, s'égarer. Aller ça et là, errer. Être trompé, être abusé. Se fourvoyer, tel est le sens du mot séduction, séduire. Le mot séduire apparaît 38 fois dans le Nouveau Testament. Donc, si nous regardons, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse, 38 fois, ça veut dire que au moins chaque fois, ou dans un évangile, ou dans l'autre, ou dans les épîtres de Paul, le mot séduction apparaît. C'est bien ce que je comprends. 38 fois dans le Nouveau Testament, le mot planao, séduire. Je ne parle pas du reste, n'est-ce pas? Je parle uniquement que de ce mot-là. Unanimement, l'ensemble des textes du Nouveau Testament révèle cet état de séduction permanent, soit par le moyen de la chair, soit par la séduction directe. C'est dire que tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est l'arme favorite des puissances spirituelles mauvaises pour détourner l'homme et les nations du Dieu trois fois saint. Si tu es séduit, tu es détourné de Dieu. Frères et sœurs, dans l'église, il y a ceux qui combattent et ceux qui ne combattent pas. Dans une armée, il y a des gens, il y a une avant-garde, mais il y en a une arrière-garde. Et l'avant-garde est plus exposée à l'ennemi que l'arrière-garde. Vous êtes d'accord avec ça? Malheureusement, les rachetés qui composent cette armée se croient volontiers invulnérables. Nous appartenons à Jésus, rien ne peut nous arriver. Combien de fois j'ai entendu cette chose? Se croire hors d'atteinte de l'ennemi est déjà une séduction, puisque cela empêche la vigilance. Se croire hors des atteintes de l'ennemi est déjà une séduction, puisque cela empêche la vigilance. Dieu, disent-ils, ne peut permettre que soient séduits ceux qui le cherchent en toute sincérité. Or, l'histoire de l'Église est là qui prouve le contraire. Toutes les séductions de l'erreur qui ont porté de si tristes fruits au sein de l'Église ont commencé par des âmes droites et sincères. J'ai connu des gens qui étaient droits et sincères dans leur cœur et qui se sont fait séduire par des doctrines et qui se sont égarés de Dieu. Et ça va surtout toucher les âmes sincères, les âmes qui paraissent droites devant Dieu. Je dis qui paraissent droites devant Dieu. Les unes sont tombées à cause d'une résolution d'obéissance mal comprise qui les a amenées à des exagérations de conduite basées sur une interprétation forcée de la parole de Dieu. Ce qu'elles nomment leur fidélité au commandement de Dieu a entraîné de nombreuses complications dans leur vie, des singularités dans le vêtement ou la conduite, de sorte qu'on les considère comme déséquilibrées. D'autres se sont laissés séduire en acceptant quelques contrefaçons des choses divines, des voix, des visions de l'au-delà, des faux baptêmes de puissance, etc. Alors, la séduction, l'égarement des chrétiens sincères est possible pour plusieurs raisons. Et je vais vous les donner. Je répète, la séduction, l'égarement des chrétiens sincères est possible pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque l'homme est né de nouveau, il ne reçoit pas aussitôt la connaissance totale de Dieu, de lui-même et du diable. Deuxièmement, l'intelligence longtemps enténébrée, et ça c'est Éphésiens 4:18, longtemps enténébrée, aveuglée par Satan, 2 Corinthiens 4:4, n'est renouvelée que dans la mesure où la lumière y pénètre. Donc dans la mesure où l'homme s'approprie de la lumière. Voulez-vous que je répète ce passage qui est très important? L'intelligence longtemps enténébrée, vous trouverez ça dans Éphésiens 4:18. Aveuglé par Satan, vous trouverez ça dans 2 Corinthiens 4:4, n'est renouvelé que dans la mesure où la lumière y pénètre, Romains 12:1. Donc, dans la mesure où l'homme s'approprie de la lumière. Troisièmement, l'intelligence est le terrain de la séduction. La séduction consiste à appeler l'erreur comme vérité. Elle se grève donc sur l'ignorance. Ce n'est plus une affaire de moralité, c'est-à-dire de sincérité ni de droiture. C'est pourquoi le chrétien sincère et fidèle en ce qu'il sait est toujours vulnérable dans le domaine de ce qu'il ignore. 2 Corinthiens 2:11. C'est pourquoi le chrétien sincère et fidèle en ce qu'il sait est toujours vulnérable dans le domaine de ce qu'il ignore. 2 Corinthiens 2, verset 11. Cinquièmement, Christ n'aurait pas averti ses disciples en leur disant « Prenez garde que personne ne vous séduise s'il n'y avait pas eu de danger de séduction. » Si Dieu s'est chargé de protéger les siens, qu'ils fussent ou non sur leur garde, qu'ils connussent ou non le danger. Donc le Seigneur nous avertit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il nous l'a dit cela parce que s'il n'y avait pas eu de danger ou de séduction, il ne l'aurait pas dit. Ensuite, frères et sœurs, et pour terminer, savoir que la séduction est possible, garde l'intelligence accessible à la vérité. Et ceci est essentiel pour que Dieu puisse exercer sa protection en faveur des siens. Au contraire, une intelligence fermée à la vérité favorise l'action de Satan. Donc vous voyez que le domaine de la séduction, il est en partie du côté de Satan, mais en partie du côté de notre chair. Et chaque fois que nous nous séduisons nous-mêmes, nous laissons une porte ouverte à l'ennemi pour venir agir dans les vies. Et nous ne devons pas ignorer ce que Dieu a dit à propos de la séduction, ce que Dieu nous a transmis par la plume des apôtres, ce que Dieu nous a dit concernant les pécheurs, ce que Dieu nous a dit concernant la vérité. C'est pour ça que l'apôtre Paul va nous dire dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés, transformés par le renouvellement de votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable devant lui. » Soyez métamorphosés dans votre intelligence, soyez renouvelés par la parole éternelle de Dieu pour que la séduction ne puisse pas entrer dans nos vies. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.